Mes bien chers amis, rebonjour et bienvenue à la poursuite de cet enregistrement d'un enseignement d'accompagnement aux interpellations essor ou déclin de notre Église, enseignement dit majeur, c'est-à-dire pour adultes spirituels seulement. Lorsque nous nous sommes quittés à la fin de la deuxième cassette, nous avions abordé le huitième et dernier syndrome, celui qu'on appelait le syndrome du sablage continu. Je disais, entre autres, nous n'avions eu que le temps de taquiner le sujet, que aussi étonnant que cela puisse sembler, du moins de prime abord, on retrouve dans notre société et même dans nos milieux d'Église des personnes en autorité qui, sans le vouloir ou sans parfois même s'en rendre compte, des parents, des éducateurs, des leaders, des évêques, des prêtres, qui par leur attitude autoritaire agissent envers leurs enfants, leurs élèves, leurs subordonnés, ni plus ni moins comme de véritables sableurs et sableuses continues à l'excès des êtres humains qui les entourent ou qui leur sont confiés. Je n'irai pas insinuer au grand jamais que ces personnes au point de départ, ni même en cours de route, désirent ou désireraient, cherchent ou chercheraient à éliminer ceux et celles qui leur sont confiés. On ne saurait imaginer une telle cruauté. Mais par ailleurs, même si cela n'a jamais été leur intention, à l'expérience de la vie, on doit bien se rendre compte à l'évidence qu'il y a eu et qu'il y a encore une multitude d'élèves dans nos institutions, de subordonnés, prêtres, religieux, religieuses, laïcs en Église, d'enfants et d'adolescents dans nos familles même bien réputées, on pourrait dire même de conjoints, qui ont été et sont encore à toute fin pratique sablés à l'excès, écrasés, broyés et presque anéantis par leurs responsables. Même si ce sablage continuel n'est habituellement pas délibéré, concerté ou même conscient, qu'il est habituellement motivé par les meilleures intentions, on retrouve quand même dans l'ensemble des cas à peu près le même scénario suivi par la majorité des personnes autoritaires. Elles commencent par humilier ou tenter du moins d'humilier les autres, par d'incessantes remontrances, prises en défaut, blâmes, remarques, mises en garde, mises en demeure, un peu d'ironie, de sarcasme. Puis, ils commencent à flageller leurs subordonnés, leurs élèves, leurs enfants, leurs conjoints, avec des racontars à leur sujet, des rumeurs, des accusations lancées au hasard, des soupçons, des critiques entendues, mais sans jamais identifier d'où ça vient, sans en donner les preuves, entretenant toujours une espèce de suspense et de mystère. Enfin, la personne ainsi matée, selon le dictionnaire, ça veut dire « mise en échec » de telle manière que la personne ne puisse plus leur échapper, la personne leur devient tranquillement subjuguée, dépendante. Et quand on voudra en finir, ce sera facile. Les résultats de tout ce sablage continu et excessif sont évidents. D'abord, peu à peu, l'individu, ainsi réprimé constamment, se met à douter de lui-même, d'elle-même. Les complexes et la peur s'ensuivent. La culpabilité s'installe. Et finalement, c'est la capitulation et la paralysie. Je le dis, ça part de bonnes intentions dans pratiquement tous les cas. Et si on questionne ces sableurs et sableuses d'êtres humains, la plupart du temps, peu conscients des dommages considérables qu'ils ont causés ou causent encore, je tiens à le spécifier, ils vont nous démontrer que jamais, au grand jamais, ils n'ont voulu mal faire, ou faire mal, loin de là. Mais qu'ils ou qu'elles ont voulu plutôt travailler uniquement à la bonne éducation, à la solide formation, au plus grand bien de la personne, élève, enfant, subordonné ou consoeur ou confrère, en leur inculquant par une telle discipline ou méthode le sens des vraies valeurs de la vie, la maîtrise d'eux-mêmes, voire même les valeurs spirituelles indispensables à la sainteté, telles l'humilité, l'obéissance, l'abandon, etc. C'est parfois émouvant d'entendre ces professions de sincérité et de dévouement des personnes en autorité. Mais c'est encore beaucoup plus émouvant de constater la déstabilisation, la dislocation, le désarroi à bien des points de vue d'un grand nombre de leurs victimes. C'est une fourberie de judoka que de nous pousser à un tel excès et un tel souci de perfectionnement des autres. Et il n'est pas rare d'en voir qui, sans appel ni mandat de Dieu, avec les meilleures intentions, se prennent pour Abraham et se cherchent leur Isaac à conduire au sacrifice pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît. Mais dans leur cas, fort malheureusement, l'ange du Seigneur n'est pas là pour arrêter leurs bras et le cher Isaac y passe. Comme vous le savez, il y a toute une école pédagogique qui croit à la formation et même spirituelle par l'humiliation. Cela se pratique dans l'armée, on le sait, ou dans des instituts sélects où l'on prépare ce qu'on appelle des élites, mais également dans certains noviciats, centres religieux ou groupements spirituels. On croit ainsi que par des humiliations, pouvoir en arriver à briser les caractères, à les rendre plus souples et malléables, pour ne pas dire plus soumis ou manipulables. C'est un jeu des plus risqués. Car dans la majorité des cas, il échoue ce jeu, et c'est même fatal pour les individus. Pourquoi? Tout simplement parce que cette façon de procéder va à l'encontre du sens et de la nature même de l'éducation, qui est plus à l'image de la culture que de celle du modelage, du façonnage ou de la fabrication. Éduquer vient du latin educere, qui veut dire sortir de, et non pas enfoncer, imposer ou écraser. Si l'humilité est une vertu qui éclaire et enrichit l'âme, la dispose au renoncement et à la mortification, l'humiliation, elle, peut aisément conduire au renforcement de l'orgueil, à cause de la honte et de la confusion, des affronts et des blessures qui s'ensuivent. S'humilier soi-même à l'occasion peut être louable et bienfaisant. Ça nettoie le système, ça ramonne la cheminée et la débarrasse de la suie. Mais permettre qu'on vous humilie est un risque grave. Si celui ou celle qui nous l'impose n'est pas lui-même, elle-même, un saint et une sainte, ou un minimum, au minimum, un maître d'humilité vrai. ce qui est, hélas, n'est pas le cas de tous les parents, autorités, éducateurs, maîtres de mouvement ou sergents-majors d'armée. Ça me fait penser, cette question, cette conception de l'humilité par l'humiliation, ça me fait penser au supplice de la goutte d'eau, qui tombe toujours à la même cadence et à la même place, et qui finit par affoler et troubler, à en perdre la raison, la victime du supplice. C'est la même chose quand les humiliations sont continues, régulières, proviennent de la même autorité et visent la même victime. À la longue, c'est comme le supplice de la goutte d'eau. Et ce qui m'attriste en terminant ce point, c'est que ça se fait encore dans des nouvelles communautés religieuses post-conciliaires et dans des mouvements dits de renouveau spirituel depuis Vatican II. Et voilà, mes chers amis, nous avons parcouru la table d'hôte des syndromes et nous allons juste rapidement tirer quelques conclusions en nous rappelant qu'ils sont toujours bien d'actualité. Les 8 syndromes que j'ai voulu retenir sur une trentaine possibles, comme je l'ai dit au tout début, ce sont des syndromes assez courants dans le monde et l'Église d'aujourd'hui. Des syndromes généralement bien intentionnés, je ne pourrai jamais assez le redire, mais qui très vite deviennent irritants et néfastes. Ils déclenchent au cœur de la vie de tous les jours une surenchère de provocation à la vérité, à la charité et à la liberté, entraîne une chaîne sans fin de réactions négatives mutuelles qui torpillent, on le voit bien, la pratique du « aimons-nous les uns les autres ». Et c'est alors libre cours à un crescendo du « mangeons-nous les uns les autres ». Ces syndromes, je le répète, ne sont pas de la vieille histoire, de l'histoire ancienne. Ils sont d'une brûlante actualité en Église d'aujourd'hui, dans son style actuel. C'est peut-être plus discret, parce qu'on est à l'heure où l'on proclame partout les droits et libertés de la personne humaine. C'est peut-être plus contenu, plus contrôlé à certains égards. C'est peut-être plus raffiné, plus emmitouflé, mais il y a encore des coups de crosse. Jadis, les coups de crosse en Église, c'était la prérogative surtout des évêques. Aujourd'hui, ils n'en ont plus l'exclusivité. Bien des fidèles, religieux, religieuses et prêtres en reçoivent d'ailleurs et d'autrement. De chanceliers, de diocèses, de vicaires généraux, d'évêques auxiliaires, de curés, d'agents ou d'agentes de pastorale, de diacres, de dirigeants et de dirigeantes de mouvements, etc. Les coups de crosse aujourd'hui se donnent peut-être, disons-le avec un large sourire, moins en ours, mais plus en douce, avec moins de fracas, mais tout autant de dégâts. Mais tout ça, c'est encore là, et c'est bien courant dans tous nos milieux ecclésiastiques et religieux, familiaux et sociaux. Et je dirais même qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être plus dangereux et dommageable que jamais, parce que, d'une part, on croit a priori que ces abus n'existent plus depuis Vatican II, et on n'y porte pas attention. On ne s'en méfie pas. Et d'autre part, parce que les consciences ont peu à peu perdu de vue certains principes élémentaires de la morale naturelle et de la morale révélée par le Christ. Mes chers amis, les 8 syndromes que nous avons considérés plus en détail sont ni plus ni moins que des boulevards qu'on offre à judoka pour qu'il circule rapidement, facilement, à la poursuite de son plan de désunité, qu'il veut réussir en tout temps et en tout lieu. Ce n'est pas seulement des voies de service ou des voies d'accès, je dirais que c'est presque des autoroutes mises à sa disposition. Et grâce à ce droit de passage à travers nos syndromes, nos comportements répréhensibles, il augmente d'autant, d'une pierre deux coups, notre autodestruction, chacun d'entre nous, et notre interdestruction entre nous. En passant, chers auditeurs et auditrices de cet enseignement, j'aurais un peu le goût de vous taquiner avant de terminer cette troisième partie, vous taquiner un brin, comme on dit, un tout petit peu. Ai-je raison ou non de penser qu'en écoutant l'une après l'autre la description de chacun de ces 8 syndromes, il vous est peut-être arrivé de temps en autre de vous mettre à penser, comme par hasard, à un tel ou à une telle? C'était sans doute pour prier à leurs intentions. Restez en paix. Ces réflexes ne sont pas d'aujourd'hui et seule la vigueur réacquise et réactive du « aimons-nous les uns les autres » pourra les étouffer. C'est évident et réaliste de penser qu'il y a des gens dans le monde et en Église qu'on pourrait aisément coiffer de non seulement un syndrome, mais 2, 3, 4, 5 et même davantage. Nous pourrions tous en désigner. Mais à eux et à elles de faire leur propre examen de conscience. Un examen de conscience, ça ne se fait pas par procuration ou à la place des autres. L'importante question à nous poser à ce moment-ci, à chacun et à chacune d'entre nous, c'est celle-ci. Moi, aujourd'hui, dans lequel de ces 8 syndromes je me qualifie, ou plutôt je me disqualifie. Suis-je prêt à demander fermement sa grâce pour m'en libérer et guérir? Car si je suis contaminé, ne serait-ce que par un seul de ces 8 syndromes, je suis alors contaminateur et contagieux pour les autres. La pollution acide de judoka le fourbe est à l'œuvre à travers moi. Dans tout ce domaine, mes frères et mes sœurs, il n'y a que 2 camps. Pas 2 1/3, pas 2 1/2, pas 3 ni 4. Ou on est un militant dans le camp du Christ, qui par la vérité, la charité, la liberté veut promouvoir l'unité dans l'amour, la joie et la paix, ou on est, même malgré soi, dans le camp de judoka qui, en détruisant ou simplement neutralisant à travers notre syndrome la vérité, la charité, la liberté, veut promouvoir la désunité en nous et entre nous, dans la haine, la tristesse et les conflits. Ou on est avec le Christ à 100%, ou toute lacune de notre part nous rend complices ou réservistes dans les troupes du malin, en ce sens qu'il nous utilise à sa cause. Je terminerai par une tranche de pain ou un petit pain pour l'esprit, comme on dit en anglais. Food for thought. Contrairement à Jésus, qui soutient jusqu'au bout ses instruments, les réconforte et les récompense, leur pardonne infiniment leurs faux pas, judoka le courbe, ou le courbe, il fait des courbes, le fourbe, est de ses instruments uniquement le temps qu'ils lui sont utiles ou qu'ils réussissent. Il les utilise jusqu'à la corde, si nécessaire. Mais n'ayant pas la moindre miséricorde, car il est non-amour, il est impitoyable et sans retour à leur égard. Et dès que la mission du complice est terminée, ne lui est plus profitable à lui pour désunir et brouiller les cartes, non seulement judoka lâche l'instrument, mais s'acharne à le détruire à son tour. Judoka joue les uns contre les autres. C'est la destruction totale qu'il veut et tâche d'en finir avec tout le monde. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. À bon entendeur, salut. Une personne avertie, dit-on en vos deux, « Eh bien, mettons-nous ensemble tous les deux et voyons-y au plus vite. Il nous faut quitter sa patinoire car il nous attend au bout de la patinoire pour nous fracasser, écraser dans le coin une fois son but atteint. » Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la quatrième partie de cet enseignement. Et là, nous allons voir ensemble, d'abord, dans la section A, les causes diverses de cette décadence. Selon le dictionnaire, décadence veut dire acheminement vers la ruine, déclin, dégradation. Or, tel est bien le cas. Notre Église est engagée dans un processus d'affaissement, de décrépitude dû précisément à l'absence plus ou moins évidente du « aimons-nous les uns les autres ». Bien entendu, cela n'est pas venu subitement ni récemment du jour au lendemain, mais peu à peu, progressivement, jusqu'à la situation alarmante et scandaleuse actuelle. Comment expliquer cette décadence, ce déclin? Avant de nous arrêter à certains de nos comportements qui ont favorisé ou qui accélèrent même présentement cette dégénérescence en cours, il nous faut rappeler à nouveau en passant qu'à l'origine, c'était et c'est encore le plan des plans bien arrêtés de Judoka le Fourbe. Nous l'avons vu dans l'arbre généalogique, tout part de là. En effet, on l'imagine bien, Satan ne veut absolument pas que l'Église s'épanouisse dans l'amour et réussissent sa mission. C'est pourquoi, dès le premier instant de l'Église et depuis toujours, il tente l'impossible pour nous diviser, nous opposer les uns aux autres, nous amener à nous entre-déchirer, nous détruire. Et au nom souvent des meilleures intentions, pour soi-disant défendre la vérité, les valeurs, la bonne cause, même défendre l'Église, on s'attaque et on se blesse mutuellement. Grand esprit d'orgueil et de non-amour, il a des milliers de ruses pour nous duper et nous allier à lui dans la destruction de l'Église. Au cœur même de l'avènement du royaume de Dieu en nous et à travers nous dans le monde. L'Église comme telle ne périra jamais, c'est certain. Nous en avons la promesse. Mais cette assurance divine, éternelle, ne couvre pas nécessairement telle ou telle communauté religieuse. tel ou tel diocèse, paroisse, œuvre, d'église en particulier. Judoka le fourbe a le désir et le pouvoir de causer des ravages sans nombre et sans nom dans tous nos milieux d'église. Surtout si nous n'y prenons pas garde, et a fortiori, si nous délaissons le « aimons-nous » pour nous laisser emporter par son vent, son souffle de dévastation et de ruine qui est le « mangeons-nous ». En 1988, en parlant de la mer debout amorcée 8 ou 9 mois plus tôt contre nous et contre moi, j'écrivais dans un document envoyé aux évêques et distribué à mes frères et sœurs en Église ce qui suit, et je cite. Dans le monde actuel, on le sait, personne n'a ou n'aura le choix des commentaires négatifs faits à son sujet, ni le contrôle des calomnies graves mises en circulation par d'autres. Judoka le fourbe est passé maître en la matière et ne manque pas de subtiles stratégies. En tant que général en chef des forces du mal, il sait toujours quand attaquer et surtout comment se choisir des instruments apparemment fiables et crédible pour mieux provoquer ses glissements de terrain et étendre ses mers debout. Habituellement, il induit ses complices en erreur sous de séduisants prétextes et il les fait succomber. C'est ce que l'adversaire du bien qu'il est tente désespérément de réussir contre les fondations depuis quelques mois en recourant à certains tristes individus. Ce sera à la longue bien en vain, même si quelques-uns, semble-t-il, sont déjà tombés dans ces pièges mensongers. En effet, là où la charité et la vérité se rencontrent, le bien et le vrai finissent toujours par triompher. Cette décadence, on peut l'expliquer de 3 manières. D'abord par la cause des causes, en second lieu par de nombreux facteurs ambiants favorables, et enfin une série de jeux de passe-passe subtils de judoka. D'abord, la cause des causes. La cause des causes de notre décadence par le « mangeons-nous les uns les autres » est, de toute évidence, et qui oserait en douter, notre anémie spirituelle assez généralisée à l'heure actuelle. Anémie compte tenu de sa gravité qu'on pourrait qualifier de pernicieuse. C'est le cas de le dire. On sait qu'une anémie, c'est une diminution du nombre des globules rouges du sang et de leur teneur en hémoglobine, qui est une substance protéique qui renferme du fer. Les symptômes généraux habituels, et qu'on peut aisément appliquer à notre vie spirituelle actuelle en Église, c'est la fatigue, la pâleur, l'essoufflement, les vertiges, les syncopes et les troubles digestifs. Au contraire, une vie en santé spirituelle en est une de vérité, de charité, de liberté vraie, authentique, qui viennent vraiment du Seigneur. Et cette vie spirituelle en santé doit se ressourcer de façon continue en lui, par la vie de la grâce, laquelle doit être alimentée abondamment et assidûment dans les sacrements, dans la parole de Dieu, dans la prière, l'adoration et la contemplation. Or, on le sait, que de pasteurs, de religieux, religieuses, de fidèles, trouvent de moins en moins de temps, de goût, de conviction, pour s'y consacrer ne serait-ce qu'un peu. Alors les forces naturelles, à elles seules, parce que facilement entachées par le péché, ne peuvent pas, sans l'aide surnaturelle de Dieu. Vivre le « aimons-nous les uns les autres » dans la vérité, la charité et la liberté. Et notre style de vie actuel en Église rend, et c'est grave, cette conversion à la fois plus difficile et plus nécessaire que jamais. Voyons maintenant quelques-uns des facteurs ambiants qui favorisent le « aimons-nous les uns les autres » et ce déclin. Je le redis encore une fois, personne qui est saint d'esprit et qui est chrétien ne veut mordre, dévorer, détruire son prochain, du moins de propos délibérés, et dans un acte libre et conscient. Or, comment se fait-il qu'on retrouve dans nos vies, même en Église, tant de paroles imprégnées et de gestes imprégnés d'agressivité, de haine, de méchanceté? C'est parce que, en plus de notre anémie spirituelle pernicieuse et des efforts de judoka et compagnie, qui de façon concertée veulent nous détruire, il y a d'autres facteurs ambiants qui, veut pas, induisent au mangeons-nous, polluent la vérité, la charité et la liberté, et favorisent gravement et grandement les expressions et les explosions de haine, de vengeance et de guerre entre nous. Voyons-en quelques-uns de ces facteurs. D'abord, les facteurs qu'on retrouve dans l'ensemble des fidèles et les simples soldats en Église. Le climat de vie et de travail à la course. L'hyperactivité est une source constante, on le sait, de tension, de pression, de rivalité. Qu'on a réussi à importer en Église au cœur même de nos administrations diocésaines, de nos secteurs d'activité pastorale et de nos mouvements dits d'apostolat, d'évangélisation et de renouveau. Tout cela engendre, à son tour, une multitude accrue de heurts, d'occasions de jalousie, de rivalité, d'imbroglio et de comparaison. Un autre facteur, c'est une bien piètre éducation quant aux trois grands dons de Dieu et à leur exercice que sont la vérité, la charité et la liberté. On nous a surtout montré dans notre éducation les aspects négatifs des manquements aux trois. Mais très peu, en termes positifs, clairs, nets, enthousiasmants, leur vraie nature, sens, portée et bienfait. Et voilà pourquoi il y a tant de confusion et d'improvisation en ces domaines. Un troisième facteur ambiant important, c'est le manque évident de leadership spirituel chrétien dans le monde et dans l'Église. Leadership édifiant, entraînant, de la part des parents, des éducateurs, des chefs de file, civils, ecclésiastiques ou religieux. Sur ces trois plans de la vérité, charité et liberté, on est donc dans un état de famine. Sans modèle et sans exemple, le peuple fait ce qu'il peut ou croit bon, et c'est trop peu. Bien souvent, ça va même dans une situation encore plus grave, le peuple est parfois mal édifié, mal inspiré, mal guidé par ceux et celles qui sont en autorité et qui n'hésitent pas, ou trop peu, à ignorer ou bafouer au besoin pour sauver leurs intérêts ou la face, soit la vérité, soit la charité, soit la liberté, soit deux des trois ou trois des trois. Enfin, au plan de l'ensemble des fidèles, on pourrait ajouter une autre influence générale néfaste. C'est celle qui vient des masses médias modernes, qui, avec leur course au sensationnalisme, avec leur esprit que je qualifie volontiers de vautour, sont à la recherche de proies à dévorer et à déchiqueter. Et ce qui crée ces masses médias, un climat pollué où se propage inévitablement dans le monde la bisbille, la violence, la vengeance, le scandale, la critique, les conflits, etc. Enfin, il y a également des facteurs ambiants au niveau de ceux qui sont en autorité. Mais comme en cours de route, je l'ai déjà pointé et commenté suffisamment, qu'il me suffise maintenant de les évoquer en vrac. D'abord, l'insécurité chronique qui amène beaucoup d'autorités à camoufler leur insuffisance en suffisance, en domination, en autoritarisme, en légalisme. La vie à la course, pour eux aussi, et la sous-alimentation spirituelle, compensée à peine par du fast food spirituel. Et enfin, l'esprit de pouvoir qui a délogé l'esprit de service et qui les tient sur le qui-vive dans une inquiétude chronique et des défis constants. Pour expliquer cette décadence, on peut le faire d'une troisième façon, en évoquant une série, et je m'arrêterai à deux ou trois seulement, une série de jeux de passe-passe subtils du fourbe judoka. Premier jeu de passe-passe, il nous a amené à changer peu à peu le sens théologique et surnaturel de la charité et de la vérité en un sens diplomatique. D'abord, en ayant cessé d'être mu par l'amour de Dieu à diffuser, on en est arrivé parfois à être mu davantage par l'amour de soi, du poste ou de la cause à sauver. Ensuite, on se met alors à diplomatiser la vérité à dire. À la manière orientale, on s'achemine dans un souci de plaire le plus possible et de déplaire le moins possible. Et nos façons de parler des autres en Église sont non seulement souvent contre la charité chrétienne, mais souvent sont même contre des éléments de la psychologie qui, au contraire, conseillent aux gens de dire clairement et directement à la personne concernée ce qu'ils ont à dire, de ne jamais entortiller la vérité ou de seulement la faire sentir ou de l'envoyer dire aux autres. Or, en Église, dans bien des milieux, peu à peu et malheureusement, on a développé l'idée que la charité consiste à ne pas tout dire, à ne pas dire trop directement, trop franchement, mais qu'il vaut peut-être mieux de l'insinuer diplomatiquement, de la lancer par la bande ou passer par un autre. C'est, croit-on, plus charitable. Eh bien, si tel était le cas, on pourrait dire que le Christ aurait manqué passablement à la charité, car il disait directement, franchement, aux apôtres, comme aux pharisiens, comme aux publicains, comme aux grands prêtres, comme à Pilate et compagnie, ce qu'il avait à dire. Les seules fois qu'il est passé par d'autres, c'est quand il a demandé un service ou transmis une bonne nouvelle. Depuis toujours, personnellement, je vous l'ai confié, j'ai appris, dès ma jeunesse, à avoir le courage et la paix de dire la vérité dans la charité, et j'en suis profondément reconnaissant à mes parents de m'y avoir éduqué. Et c'est toujours porteur, croyez-moi, de lumière et de chaleur, et c'est thérapeutique à plein. Dire la vérité avec charité et liberté, ça ne dérange d'ailleurs que ceux et celles qui n'ont jamais appris ou ont jamais eu le courage d'accueillir ou de rayonner l'un et l'autre et qui préfèrent le clair-obscur ou le pénombre à la lumière. Un deuxième jeu de passe-passe a été celui-ci. En général, on le sait, dans le monde et selon son esprit, on a plus tendance à se prendre à défaut qu'à se prendre en qualité. Si quelqu'un a fait une erreur et même s'il a seulement été accusé, même pas encore jugé ou condamné, le monde a la mémoire longue. Par ailleurs, s'il s'agit d'un acte méritoire et exemplaire, le monde fonctionne sur les ondes courtes. Ce qui est non seulement regrettable, mais même dommageable, c'est qu'en Église, entre nous et à tous les niveaux, ce n'est guère mieux la plupart du temps. Est-ce de la pudeur, de la gêne? Certains affirment que c'est de la prudence et souci d'humilité, oh là là. Avons-nous donc la vérité? C'est bien plutôt par manque de formation et d'habitude, c'est par jalousie et envie, parfois par manque véritable d'amour véritable. On n'aime pas parler des qualités et des vertus des autres. Deux exceptions cependant, par concession et pas dans tous les cas, on est prêt à en parler après leur mort ou quand ils sont loin. On peut faire les plus beaux éloges de Mère Teresa ou de Jean Vanier, ça va. Mais de vrais chrétiens, comme Mère Teresa et Jean Vanier parmi nous, ah non, ça, il ne faut pas en parler. Pourquoi donc? On n'a pas assez d'humilité et de simplicité d'une part, et trop d'esprit critique, de compétition, d'esprit mondain d'autre part. En Église, on a, à toute fin pratique, perdu le sens de la sainte et saine émulation vers le bien et le progrès spirituel. On dira en boutade, au lieu de risquer la sainte émulation, on vit la sotte tribulation. C'est même plus poussé. Non seulement on ne vante pas les autres, non seulement on ne permet pas à quelqu'un de déclarer ses prouesses spirituelles, comme saint Paul l'a fait, « Prenez-moi pour modèle, dit-il, mon modèle à moi, c'est le Christ. » Mais on tolère à peine que quelqu'un proclame avec joie et paix et amour, partage fraternellement le fruit de ses expériences ou de ses trouvailles spirituelles. Pour qui est-ce qu'il se prend? Pour qui est-ce qu'elle se prend? C'est de l'orgueil! Aux fondations, mes amis, on se refuse d'agir comme dans le monde et comme dans certains secteurs où le mangeons-nous les uns les autres ravage en Église. Où les gens s'envoient des briques de leur vivant et des fleurs après leur mort. Pour nous, on préfère l'embaumement à l'embaumement du corps, on recommande l'embaumement de l'esprit, du cœur et de l'âme, du vivant chacun. La bonne odeur du Christ, du Père et de l'Esprit. L'appréciation encourage la croissance. C'est pas vrai que ça encourage l'orgueil. Le cultivateur ne se laisse pas obséder par l'ivraie, mais plutôt par les bons fruits, les légumes et les fleurs. On voudrait que tous les humains aient du pain à manger. Or, les êtres humains ont encore plus besoin d'appréciation vraie et d'amour que de pain. Et on me fait signe que le temps est écoulé. Nous allons nous reposer un moment.